Bientôt 12 ans que l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud, 12 ans qu'ont eu lieu les premières élections démocratiques et 10 ans qu'une nouvelle constitution entérinant la démocratie multipartite et non raciale a été adoptée. Très active dans le démantèlement de la politique raciste et dans la mise en œuvre d'une réconciliation nationale, l'Église a son mot à dire dans la renaissance de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, elle doit affronter de nouveaux défis. Pauvreté, chômage affligent plus de 40% de la population, sans compter le sida qui prend des proportions alarmante.
Je pourrais en nommer plusieurs, mais je vais me concentrer sur trois. La pauvreté, le sida et la violence.
Le père Jacques Amiot-Dainville est membre de la Société missionnaire d'Afrique, originaire du diocèse de Rennes en France. Il est parti volontaire à Soweto au moment de l'apartheid. Il lutte aujourd'hui contre les nouveaux fléaux de la société, notamment à Johannesburg où il est basé actuellement. C'est son regard que nous vous proposons aujourd'hui.
Alors, en ce qui concerne la pauvreté, l'Église catholique a un département qui s'appelle Justice et Paix et qui fait énormément d'efforts dans ce domaine. Il y a eu, par exemple, il y a quelques années, une conférence nationale sur la justice économique. Il y a des déclarations qui sont continuelles. Il y a des conférences qui sont faites par nos évêques. Il y a encore quelques jours, j'écoutais l'un de nos évêques, qui s'appelle Kevin Dolins, qui nous disait que 50% des gens en Afrique du Sud sont actuellement sous le niveau acceptable de pauvreté, c'est-à-dire 22 millions de personnes. Il nous disait aussi qu'il y a 2,5 millions de gens qui vivent dans des bidonvilles. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, mes paroissiens vivent dans des bidonvilles. Alors, nous, Église catholique, je dirais que nous cherchons continuellement à informer les consciences, à informer les gens et à essayer de voir comment la lutte contre l'inégalité peut se former.
Et puis, il y a le sida, dont la gravité, au regard des derniers chiffres, ne fait que s'accentuer. On parle de 500 000 Sud-Africains morts de maladies liées à ce fléau. Alors, comment l'Église participe-t-elle à la lutte?
L'Église catholique fait une énorme contribution. Après le gouvernement, c'est nous, Église catholique, qui sommes le plus engagés dans la lutte contre le sida et pour la prévention et aussi pour les soins à donner aux malades. En ce qui me concerne ma paroisse, par exemple, nous avons, avec d'autres chrétiens aussi, ou même des non-chrétiens, une organisation qui s'occupe des gens qui sont malades. Et nous allons, dans l'avenir, nous allons nous occuper aussi des orphelins et de ce que nous appelons aussi les enfants vulnérables.
Et puis, autre fléau non négligeable, la violence. Une violence qui, après 50 années de discrimination raciale, ne s'est pas arrêtée par enchantement, n'est-ce pas, Père Amiot?
En ce qui concerne la violence, il y a quelques semaines, les leaders religieux, avec d'autres leaders, ont publié une note, cherchant là aussi à voir comment faire baisser le niveau du crime. Alors, il y a un appel qui est fait aux criminels, il y a un appel qui est fait aux victimes. Je lis par exemple ce qui est dit aux victimes. Nous appelons les victimes à refuser le silence et à faire des rapports en ce qui concerne les crimes violents et tous les maux qui leur sont faits, afin que toute la population entière puisse justement lutter contre le criminel et les aider à changer de vie.
Alors l'Afrique du Sud, Père, est marquée par une grande diversité des hommes et des cultures, ce qui n'est pas rien quand il s'agit de s'entendre. Alors est-ce que le paysage ecclésial est aussi varié que le paysage humain ?
Oui, énormément. Je dirais que les églises principales qui sont en Afrique du Sud maintenant et qui correspondent plus ou moins à 35% de la population sont ce qu'on appelle des églises du peuple ou des églises indépendantes ou peut-être le meilleur titre, des églises d'origine africaine. Alors, ce sont des groupuscules de gens qui sont composés uniquement de noirs qui se rangent sous la houlette d'un pasteur à la personnalité charismatique. Une des caractéristiques de ces églises, c'est que leurs pasteurs, en général, ont une formation très minime en ce qui concerne, disons, la formation théologique. Ce sont certainement les églises les plus importantes. Et je crois que nous, églises catholiques et autres grandes églises, nous devons voir pourquoi ils attirent tellement les Noirs. Mais il y a aussi les grandes églises protestantes classiques, comme l'église anglicane, l'église luthérienne, l'église méthodiste. Et alors nous, églises catholiques, nous sommes censés avoir en gros une proportion de 7,2% de la population. Une chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'au moment de l'apartheid, à partir de mon expérience de Soweto, les trois églises que j'ai connues les plus engagées pour la lutte contre l'apartheid étaient avec l'église catholique, l'église anglicane et l'église méthodiste.
Unité des peuples dans la diversité des cultures, c'est votre objectif à tous. Et est-ce que vous arrivez à affronter les problèmes ensemble ?
Tout à fait. Mais aussi, vous parliez des cultures différentes, c'est tout un problème, même au niveau d'église catholique. Le fait que les gens parlent différentes langues, les gens ont des désirs différents, cela pose des tas de défis. Je vais vous donner un exemple. Je fais partie maintenant du diocèse de Johannesburg, mais j'arrive d'un autre diocèse. Alors, notre évêque voulait organiser des pèlerinages diocésains, avec l'immense majorité des chrétiens étant de couleur noire. Mais nous avions aussi des blancs dans notre diocèse. Alors tout de suite, deux ou trois défis se présentaient. Le premier, c'est évidemment la question des langues. Quelle langue faut-il utiliser ? Est-ce que c'est l'anglais, le zoulou, le soutou, etc. Mais là, nous arrivions plus ou moins à nous mettre d'accord en ce sens que nous acceptions que les langues diverses soient utilisées. Mais, par exemple, les Noirs aimaient que les cérémonies durent le plus longtemps possible, disons de 3, 4, 5, 6 heures de suite. Tandis que les Blancs disaient, en ce qui nous concerne, nous, une heure et demie, ça nous suffit tout à fait. Alors vous voyez, il faut toujours qu'à tous les niveaux, y compris au niveau de la vie de l'Église, nous sachions faire des compromis et accepter que les autres cultures, les autres populations soient aussi accommodées.
Père Amiot, tout à l'heure, vous évoquiez votre permanence à Soweto. À l'époque de l'apartheid, l'aventure missionnaire était alors très récente, puisque les Pères Blancs ne sont arrivés en Afrique du Sud que dans les années 80. Pourriez-vous nous parler un peu de votre expérience ? Comment vous avez vécu ce passage entre l'Afrique du Sud d'hier et l'Afrique du Sud d'aujourd'hui ?
Je m'étais porté volontaire pour aller vivre à Soweto au moment de l'apartheid, ce qui veut dire que quand j'y étais en position illégale à cause de ma peau blanche. De nuit, nous devions coucher à un certain endroit selon notre couleur de peau. Mais c'était vers la fin de l'apartheid et le gouvernement commençait à être fatigué de lutter. En 92, j'ai quitté Soweto, j'ai été nommé dans ce qui était un Bantoustan, c'est-à-dire un des dix endroits où les Noirs avaient été parqués au moment de l'apartheid. Afin de préparer les élections de 94, c'est-à-dire vers 92, le gouvernement, les églises et d'autres ont voulu former des comités de paix. Et en ce qui me concerne, comme les jeunes Noirs de l'ANC, c'est-à-dire du parti politique de Nelson Mandela, commençaient à être assez violents dans notre région, je suis allé les défier. Et je leur ai dit, vous savez que je suis contre la violence qui vient de l'apartheid, mais si vous, les jeunes Noirs, vous amenez de la violence, je ne pourrai pas être de votre côté. Et à ma grande surprise, quelques semaines après que je leur ai dit ça, quand il a fallu choisir un responsable du comité de paix dans notre région, ces jeunes m'ont désigné. Et quelques temps après, il a fallu aussi choisir des gens qui prendraient les rapports des criminels et des victimes de la commission Vérité et Réconciliation. Donc je parle de mes efforts à moi, mais évidemment, au niveau de toute l'Église, il y a eu un énorme effort de la part de l'Église, de même que nous avions lutté contre l'apartheid, ensuite pour participer aux défis du pays.
Après plus de 10 années de démocratie et de liberté en Afrique du Sud, on peut parler d'une décennie positive, même si toutes les plaies ne sont pas refermées. Est-ce qu'il en va de même pour les vocations sacerdotales et religieuses ? Où en est-on aujourd'hui sur le sujet ?
Un des grands défis qui se pose à l'Église catholique, c'est que nous manquons encore énormément de prêtres, pratiquement dans tous les diocèses, et que l'immense majorité des prêtres dans les diocèses sont à l'heure actuelle des religieux ou des missionnaires, donc des gens qui dépendent aussi d'un supérieur, qui n'est pas l'évêque. Alors ça pose énormément de difficultés à nos pauvres évêques parce que, eh bien, ils sont responsables de ces prêtres-là, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Donc, autrement dit, nos évêques ont besoin de beaucoup plus de prêtres qui soient directement à leur service et seulement à leur service. Une chose que je pourrais dire aussi à propos des vocations, c'est que, alors que dans l'ensemble, les prêtres étaient de couleur blanche dans le passé, à l'heure actuelle, les jeunes vocations et les séminaristes sont surtout de couleur noire. Enfin, c'est à chacun d'entre nous de s'entendre et je pense que nous y arrivons plus ou moins. Cela pose des difficultés de temps en temps, mais nous y arrivons.